quatrième et dernier temps de notre semaine sur Cléopâtre, reine d'Égypte, dont vous pouvez écouter, réécouter ou télécharger les épisodes précédents sur notre site franceculture.com, où vous pouvez laisser d'ailleurs également vos commentaires, ainsi que sur le groupe d'amis de la Fabrique de l'Histoire créé sur un réseau social bien connu. Vous pourrez ainsi écouter et commenter, par exemple, l'émission de lundi, dans laquelle notre grand invité Bernard Legras nous dressait le décor égyptien dans lequel évoluait la dernière descendante de la dynastie des Lagides, le débat de mardi sur la responsabilité des historiens de Rome dans le récit qui nous a été transmis des faits et gestes de Cléopâtre et le documentaire d'hier sur le mythe de Cléopâtre tel qu'il s'est développé autour de cette reine aux 100 visages, amoureuse, martyre, cruelle ou prostituée. Donc aujourd'hui, pour cette émission préparée avec Perrine Kervan, nous allons tenter dans ce débat de jeudi de comprendre l'action politique de Cléopâtre à partir des sources archéologiques, épigraphiques, des sources papyrologiques ou encore de la numismatique. Et nous serons en compagnie de Pascale Ballet, elle est égyptologue, professeure à l'université de Poitiers et elle participe aux fouilles, entre autres, du centre d'études Alexandrine, où elle sera en direct au téléphone. Pascal Vernus, il est égyptologue également, il est professeur à l'école pratique des hautes études, il est un des égyptologues les plus connus en France. Et puis Christian-Georges Schenzel, il est maître de conférences en histoire grecque à l'université de Valenciennes, il est auteur en 1999 d'un Cléopâtre paru dans la collection Que sais-je au PUF et auteur récent d'un Hérode le Grand chez Pygmalion. Bonjour à tous et merci donc d'avoir accepté de venir à ce débat qui n'est pas si simple au bout du compte parce qu'on a beaucoup parlé de la légende de Cléopâtre pendant tous ces jours, donc depuis lundi dans la fabrique de l'histoire, j'allais dire la fabrique de Cléopâtre. Donc on a beaucoup parlé de cette légende autour de Cléopâtre et aujourd'hui on va tenter, et c'est peut-être le plus difficile, de découvrir l'action de ce personnage, de comprendre ce qu'elle a véritablement fait au-delà des railleries et des critiques qui ont pu lui être adressées depuis Rome par les historiens de Rome, comme on en a parlé hier et avant-hier dans cette émission. Pascale Ballet, vous êtes... bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour Emmanuel Laurentin. Je vous entends bien. Je suis à Alexandrie pour l'instant.
Mais merci d'être avec nous au téléphone depuis Alexandrie. Alors, vous êtes égyptologue, vous êtes archéologue, vous travaillez au Centre d'études Alexandrine. Et Alexandrie, évidemment, on en a beaucoup parlé dans cette émission. C'est un lieu central. C'est le lieu central de ce pouvoir, justement, de la dynastie des Ptolémées. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est de savoir ce qu'on sait, effectivement, des bâtiments, des lieux dans lesquels vivait Cléopâtre. En sait-on grand-chose ? A-t-on retrouvé d'ailleurs beaucoup de ces lieux ou est-ce qu'on en a simplement une description littéraire par les sources littéraires romaines en particulier ou par les géographes qui se sont déplacés sur place justement soit au moment où vivait Cléopâtre, soit un peu plus tard, Pascal Ballet ?
Oui, alors en fait, donc je vais juste rectifier un tout petit point de ce que vous avez, quand vous m'avez présenté, je suis à la fois une formation d'égyptologue, mais aussi d'helléniste.
Ah, c'est important que de le dire.
Je suis professeur à l'université de Poitiers, mais en détachement CNRS au CEOALEX, au Centre d'études Alexandrine. Donc je ne suis pas personnel permanent au CEOALEX, qui effectivement travaille beaucoup sur les problématiques que vous développez. Mais pour revenir à la dernière question que vous avez soulevée, en fait... On a des données extrêmement fragiles sur le plan archéologique, à la fois des palais ou du palais de Cléopâtre et sur éventuellement les temples qu'elle aurait pu
construire ou faire construire
et ériger à Alexandrie. Alors, je donne quand même 2-3 points. D'après les géographes, d'après Strabon essentiellement dans sa description de la ville, d'après des sources plus tardives, on suppose que le palais de Cléopâtre, en tout cas sa résidence privée, devait être située sur ce qu'on appelle la presqu'île de Lochias, qui est une presqu'île qui cerne le grand port, le Portus Magnus, qui est le grand port d'Alexandrie, qui le cerne sur le côté est. Et il est possible que... dans l'intérieur, donc au sud du port, le quartier qu'on appelait les Basileia, donc le quartier royal, devait peut-être accueillir l'administration à l'époque lagide. Mais à l'époque de Cléopâtre, on n'en sait pas véritablement grand-chose. Ce qu'ont tenté de faire l'équipe de Frank Godio, qui a fouillé des fouilles sous-marines dans le grand port, c'était donc de... Je dirais plutôt définir des structures, des môles qui attestent bien, qui confirment bien le fait que les géographes et les auteurs anciens avaient raison en situant également des infrastructures qui s'avançaient à l'intérieur même du grand port, mmh. et qui permettaient d'avoir en quelque sorte des sortes de structures secondaires, ouais. Des malls qui devaient certainement permettre d'installer des bâtiments, et notamment peut-être la fameuse retraite que choisit Antoine. Mmh. À son retour de la bataille d'Actium, où il est bien sûr vaincu, mais c'est surtout Cléopâtre qui est la grande vaincue aux yeux des Romains en tout cas, et donc il aurait construit à cet endroit-là, et ça peut correspondre aux trouvailles de Franck Gaudio et de son équipe qu'il a effectuées voici quelques années.
Alors donc on a déjà quelques petites idées. Pascal Vernus, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. On se dit, est-ce que c'est un cas exceptionnel, le fait qu'on n'a pas beaucoup de choses cette période, sur ce moment, beaucoup d'architecture, ou est-ce qu'au bout du compte, ce n'est pas le lot commun quand on s'intéresse à l'Égypte, des archéologues, des égyptologues, des gens qui travaillent sur ce territoire géographique, c'est-à-dire de travailler avec du peu, avec du manque, avec beaucoup de trous d'une certaine façon, Pascal Vernus.
Vous avez tout à fait raison, c'est l'un des ce qui frappe le plus quand on parle des grands hommes de l'Égypte ancienne en général, Cléopâtre comprise, c'est le contraste qu'il y a entre l'intérêt que suscitent ces grandes personnalités, et à juste titre, et le peu de renseignements ou la maigreur des renseignements précis qu'on peut leur donner si on se tient à la documentation.
Ça veut dire qu'il y a d'autres exemples que Cléopâtre
dans
ce
sens-là. Bien sûr, en dehors de l'époque ptolémaïque, je pense à Akhenaton, par exemple. C'est une des figures qui suscite le plus d'intérêt. Et on a des documents, bien sûr, sur Akhenaton, on en a, mais c'est si peu par rapport
à la légende.
À la légende. Et Khéops, c'est encore pire. Khéops, ça tiendrait sur quelques pages ce que l'on sait sur Khéops, alors que c'est un nom universellement connu. Donc ça, c'est un problème qui est général. Pour l'époque ptolémaïque, on est quand même un peu mieux loti. Mais il faut penser qu'il s'agit non seulement de documentation d'un point de vue quantitatif, mais aussi qualitatif. Mmh. Très souvent, les documents qui subsistent sont des documents qui ont été faits pour subsister. C'est-à-dire, c'est des documents...
Dans la pierre.
Exactement, dans la pierre, ou qui, à tout le moins, ont une vue un peu figée et erratique de la réalité. Mmh. Ce qui fait qu'on a une vue un peu oblitérée. Supposons qu'on reconstitue la République française grâce au fronton des mairies sur lequel il y a liberté, égalité, fraternité. Non, j'exagère, bien entendu, mais c'est pour vous dire, il faut que les public comprennent bien, il y a toujours un fossé entre l'intérêt que suscitent les grands personnages et le peu de documents qu'on a. On n'a pas, par exemple, les mémoires de Saint-Simon.
Oui, oui, l'équivalent des mémoires de Saint-Simon.
Supposer qu'on a eu un Saint-Simon qui écrivent le règne de... On n'a pas ça du tout.
Oui, ça veut dire que votre travail, malheureusement, alors on le sait, l'égyptomanie, on en avait fait une semaine dans la Fabrique de l'Histoire, est une passion française, et c'est aussi une passion d'autres pays, mais on a une passion française au moins depuis l'épopée de Bonaparte pour l'Égypte. Vous avez donc un travail un peu déceptif. Vous êtes là pour obliger. Vous êtes obligé en tant qu'égyptologue décevoir votre public.
Alors, il y a deux attitudes. Si on se tient à une déontologie rigoureuse, on déçoit. Alors d'autres, moins tenus par une déontologie rigoureuse,
on ne les citera
ne
pas.
Déçoivent.
Il n'était pas autour
je n'ai personne.
Il n'était pas autour de ce micro, de toute façon.
Et donc d'autres, à ce moment-là, font un recours à leur imagination.
Perrine Carvan.
Oui, mais pourtant, on a cette sensation, alors une sensation qui est fausse, d'avoir une foule de détails sur Cléopâtre, de par les auteurs romains qu'on a beaucoup mentionnés cette semaine, et qui sont des écrits de propagande, finalement, qui n'ont presque, on pourrait dire presque, aucune valeur du point de vue...
Ah non, il ne faut pas dire qu'ils n'ont aucune valeur. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Le fait même de mentir est déjà une vérité.
Ouais.
Donc, il ne faut pas le dire, les choses comme
donc
ça.
Donc, on a quand même des éléments.
On a énormément d'éléments. Mais si, quand vous essayez de saisir la réalité de Cléopâtre, moi, je dirais qu'il n'y a qu'une chose qui me paraît juste. Cléopâtre, c'est le bling-bling avant la lettre. Ça, je crois que c'est quelque chose qui me paraît... Je ne sais pas si monsieur qui est spécialiste...
Il y a sans doute quelque chose, effectivement,
moi, ce qui me frappe chez elle, au-delà de tout
ce qu'on a pu
raconter, c'est vraiment une femme cupide et qui aime le spectacle et le bling-bling. Ça, franchement, je pense qu'on peut le nier.
Christian-Georges Fenzel, et puis ensuite, je redonnerai la parole à Alexandrie et à Pascal Ballet, qui est au téléphone avec nous.
Christian-Georges Fenzel. Ce qui est sans doute intéressant, c'est de replacer en même temps ce bling-bling, sans chercher totalement à le justifier, mais on peut l'expliquer dans le contexte politique ou géopolitique de l'époque. Elle est dans une situation très, très difficile. Elle n'est pas, en fait, indépendante, contrairement à ce qu'on lit parfois. Ce n'est pas un royaume indépendant, le royaume des Ptolémées. Elle est, au mieux, autonome. Et donc, elle cherche cherche à maintenir une autonomie dans cet empire
romain. À la maintenir, et maintenir, voire à l'augmenter cette autonomie.
Voire à l'augmenter. Ça, c'est son ambition à plus long terme, augmenter cette autonomie.
Et retrouver l'ancienne puissance de l'ancien l'ancien royaume lagide avec, pourquoi pas Chypre, pourquoi pas des comptoirs partout.
Dans quelles conditions récupère-t-elle Chypre? Elle récupère, disons, les richesses de l'île. Hein. C'est surtout en termes financiers. Elle ne crée jamais son empire. Donc, on ne revient pas à l'empire des Ptolémées. Elle est quand même... Elle est soumise, en fait, à Rome.
Hein. Ouais. Pascal Ballet, si on continue dans cette tentative de description, justement, de ce qu'on sait, de ce qu'on peut savoir scientifiquement, donc, autour de cette personnalité, et surtout de ce pouvoir qu'a eu Cléopâtre. Je m'étonnais tout à l'heure, en discutant avec Perrine Carvon, avec laquelle on a préparé ces émissions, en discutant avec Perrine, je m'étonnais du qu'on te fait, voilà, quelqu'un qui a régné une vingtaine d'années, et les traces épigraphiques, les traces archéologiques, même la mention même de son règne sont très peu nombreuses, d'après ce que j'ai cru comprendre. Comment peut-on l'expliquer, Pascal Ballet?
Alors écoutez, en fait, elle a effectivement un certain nombre d'inscriptions. Elle a elle-même fait construire des temples dans le sud de l'Égypte. Mmh. On a un certain nombre d'inscriptions également sur papyrus. On a une ordonnance royale, c'est la dernière d'ailleurs des ordonnances des Ptolémées en 41, donc avant Jésus-Christ, où elle décrète que les exemptions de revenus sur les terres doivent être maintenues, et cela c'est pour favoriser les riches alexandrins qui possèdent des terres dans le delta. Mmh. Donc il y a quand même une série de textes, de documents, donc soit des documents parfaitement officiels, soit également des documents plus privés. On a des contrats qui datent de l'époque de Cléopâtre, et là on s'aperçoit qu'elle est effectivement bien mentionnée, même au moment où elle est en conflit avec son frère époux Ptolémée XIII. Donc quand même, on a une série de documents. Mais je voudrais juste revenir sur un point qui concerne l'activité constructrice, c'est le sanctuaire qu'elle a développé au cœur d'Alexandrie, et sur lequel a travaillé l'équipe de Jean-Yves Empereur. Mmh. Donc, c'est le fameux Caesareion ou le Césaréum.
Oui, donc le temple dédié à César, donc qui sera transformé.
César, puis ensuite, c'était sans doute au départ simplement un hôtel, puis sans doute également consacré à Antoine, et Auguste a récupéré le monument pour le transformer ensuite, avec l'évolution du culte impérial, en sanctuaire du culte impérial. Mmh. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que justement, puisque vous cherchiez des preuves archéologiques, c'était donc la première fouille du centre d'études alexandrine, et là, nous avons trouvé un contexte tout à fait qui correspond à la période, on va dire la fin du 1er siècle, pour nous datons par la céramique de l'époque de Cléopâtre et du début de ce qu'on appelle l'époque augustéenne précoce. Mmh. Donc, on est vraiment à la seconde moitié du 1er siècle avant. Et ce qui est très intéressant avec ce contexte, eh bien, c'est qu'il nous donne une vision du commerce à l'époque, puisque nous avons une importation du monde oriental, de la région d'Antioche en particulier, un peu de Chypre, un peu du Sud-Levant. On a donc un apport, si vous voulez, en termes de vaisselle de table extrêmement important, extrêmement beaucoup plus important que les productions locales.
Alors c'est important.
C'est un travail qui est sous presse. Là, on est en train de travailler sur ce manuscrit.
Perrine Cabran.
Et alors, est-ce qu'on dit aussi souvent que donc Cléopâtre était une reine très cultivée? On fait référence à son entourage, à sa bibliothèque. Là aussi, on a des preuves archéologiques, justement,
Il n'y a pas de preuves archéologiques. En revanche, là, j'ai retravaillé un petit peu, justement, sur ces questions, préparant cette émission, si je puis dire, moi aussi, de mon côté.
Oui.
En fait, il y a une étude très intéressante d'un Italien qui s'appelle Gabriele Marasco, qui a fait le point sur, justement, la culture, la connaissance. On le connaît, en fait, la culture. Et d'ailleurs, on ne connaît rien de la formation, de l'éducation de Cléopâtre. Ce qu'on sait, on suppose aussi, et ça, Michel Chauveau l'a bien expliqué dans son livre sur Cléopâtre de la Dumite.
Oui, chez
en fait,
Yana Lévy.
On ne sait rien sur son éducation, mais elle a dû être certainement formée, donc sans doute à l'instar des fils ou des garçons royaux qui donc, doivent accéder à la couronne ensuite. Et en revanche, on sait qu'elle a écrit un ouvrage qui s'appelle « Le Cosmeticon,
un traité des cosmétiques, oui.
Voilà, qui n'était pas un traité pour chercher à embellir les femmes, etc. Mm-hmm. Non, c'était un traité très, c'était de la recherche appliquée sur, il y a trois médicaments qui ont été consignés d'une part par le médecin de l'empereur Trajan, qui s'appelle Criton, et ensuite consigné par Galien. Donc vous voyez, il y a une chaîne donc, de gens extrêmement sérieux qui ont récupéré ces trois recettes qui concernaient le traitement du cuir chevelu. Donc ça, c'est sur lequel elle a travaillé, et elle était entourée précisément de médecins qui travaillaient essentiellement dans le domaine de la chirurgie, et de tâcher de trouver aussi des remèdes, des traitements à un fléau qui était en train de dévaster l'Égypte à cette période-là, qui était les pays qui entouraient l'Égypte, qui était la peste bubonique.
Mais Pascal Vernus, on pourrait dire, d'une certaine façon, ça c'est un fait, on sait que ça existait, on sait qu'elle l'a écrit, mais il est toujours difficile d'aller au-delà, là aussi, de savoir si, par exemple, son pouvoir de souveraine faisait d'elle une sorte, là je vais faire de l'anachronisme, ce qu'on déteste à la fabrique de l'histoire, mais une sorte d'Héléna Ceausescu de son époque, c'est-à-dire, est-ce que c'était des médecins autour d'elle qui écrivaient ce traité de cosmétique, elle le signait de sa main, on n'en sait rien d'une certaine façon. C'est-à-dire, est-ce qu'elle était véritablement spécialisée, elle avait la culture pour le faire, ou est-ce que son pouvoir l'a poussée à pouvoir justement endosser le travail des gens qui étaient autour d'elle? Ça, on ne le sait pas très bien.
Alors, je peux vous dire, là, c'est un point très intéressant sur lequel on a quand même une indication. Il semble que dans l'Égypte pharaonique, je dis bien l'Égypte pharaonique, il y avait une tradition de médecine que tout le monde connaît, mais quelque chose de plus. On a déjà dans des papyrus égyptiens anciens l'association de reines avec certaines formules médicales et en particulier cosmétiques. Alors, dans le cas de Cléopâtre, hypothèse oui, que je fais, se demander...
Levez bien haut les mains pour dire que vous n'y êtes pour rien et qu'au bout du compte...
Dans ce cas-là, est-ce que nous n'avons pas tout simplement une utilisation d'une tradition pharaonique? Et ça, c'est tout à fait possible, parce qu'on sait que Cléopâtre, c'est une exception d'ailleurs par rapport à la famille des Ptolémées en général, était quelqu'un dont on dit qu'elle s'intéressait vraiment, qu'elle connaissait la langue égyptienne, et on n'a pas de raison a priori de suspecter. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense mon collègue.
Oui, ce que dit Pascal Vernus est très intéressant. Effectivement, elle récupère sans doute une tradition égyptienne. Alors, dans cette histoire de traité sur les cosmétiques, effectivement... l'a-t-elle bien écrit elle-même ou a-t-elle signé un ouvrage c'est peut-être l'un de ses médecins ou les médecins d'Alexandrie qui ont contribué à rédiger cet ouvrage. Alors on peut y voir éventuellement un effet effectivement de la propagande. Cela dit, peut-être que la comparaison avec Héléna Ceausescu
est
contestable parce qu'elle contrairement à la femme du tyran roumain, elle appartient à une dynastie ancienne. Elle a des livres à disposition.
Une vraie dynastie lettrée.
Elle a pour ancêtre notamment Ptolémée III, enfin, qui avait constitué en partie les fonds de la bibliothèque. Donc, il y a quand même... on a des raisons de penser qu'elle était vraiment
Et que sa réputation de reine intelligente et cultivée n'est pas une réputation usurpée.
Il n'y a pas de raison d'en douter. Sa capitale est une des capitales culturelles, même si l'Égypte est un peu en décadence d'un point de vue politique. D'un point de vue culturel, ça n'est sans doute pas le cas à son époque.
Pascal Ballet, sur ce point.
Oui.
Puisque c'est vous qui avez lancé cette idée avancé cette idée du traité de
Non, mais je pense qu'elle n'est pas la seule, d'ailleurs, même en dehors de la tradition égyptienne. Je pense qu'à l'époque, on a des exemples. On a Mithridate en particulier, qui aussi était quelqu'un de très cultivé, qui a aussi écrit des traités. Plus tard, des empereurs romains, etc. Donc non, ça fait partie, je pense, d'une sorte... Il y a une symbiose, si vous voulez, entre les pratiques scientifiques, la recherche et le monde du pouvoir. Et ça, c'est vrai que c'est très novateur, et c'est très, très novateur, on va dire, que c'est très original par rapport à, aujourd'hui, la manière dont on conçoit la relation du pouvoir et de la science.
Bien sûr. Périne Cavran.
Et alors, vous avez dit, Pascal Vernus, alors c'est quelque chose sur lequel il faut peut-être revenir, qu'on dit que Cléopâtre s'intéressait beaucoup à la question égyptienne, qu'elle n'était pas forcément une souveraine uniquement grecque. Alors, on le dit effectivement, mais j'ai l'impression qu'on se base pour le dire sur le fait qu'il y a écrit à un endroit qu'elle est donc philopatrice, qui aime sa patrie, et pas seulement Philopator qui aime son père. Oui. Elle est les deux. Mais est-ce que c'est cette simple mention?
Non, il y a d'autres documentations. Oui. On dit qu'elle possédait, qu'elle maîtrisait le démotique, qui était donc la langue vulgaire, et d'autres langues. Ça, d'autres langues, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des faits tout à fait intéressants dans ce qu'on rapporte. On dit qu'elle connaissait la langue des troglodytes, c'est-à-dire des tribus nubiennes qui habitaient le désert égyptien. Alors, bien entendu, je ne peux pas me porter garant là-dessus, mais il y a quand même de fortes probabilités qu'il y ait quelque chose de vrai. Mais il y a un autre point de vue que je voudrais quand même faire comprendre. Attention à la notion d'auteur. Hein. Quand on parle de Cléopâtre, il faut penser qu'à ces époques-là, jusque d'ailleurs très, très récemment, l'auteur, c'est plutôt une caution. Autrement dit, on peut très bien imaginer dans l'esprit de l'Antiquité des médecins travaillant à des recettes et demandant à la reine la caution d'apporter sa caution en prenant l'invention de ce traité. Ça, c'est pas quelque chose comme qu'on en parle à l'heure actuelle. Il ne s'agit pas de plagiat réellement, il cherche plutôt un problème de caution, hein, je crois.
Oui, c'est tout à fait cela. Et ce qu'on peut peut-être ajouter, enfin, comme le disait très justement Pascal Ballet, c'est que dans la monarchie des Ptolémées, il y a un lien très étroit entre le pouvoir et le monde intellectuel. C'est la dynastie intellectuelle par excellence.
La bibliothèque d'Alexandrie.
Oui, contrairement sans doute aux Séleucides, les Attalides sont sans doute plus intellectuels.
Les autres descendants des lieutenants d'Alexandre, il faut bien expliquer.
Il y a Pergame quand même.
Enfin, oui, il y a Pergame, effectivement. Donc, d'ailleurs, Cléopâtre va récupérer les ouvrages. Et donc, pouvoir et intellectualité sont liés, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, dans tous les États contemporains, y compris les démocraties. Ouais. Ça fait partie des attributs du pouvoir.
Je suis une intellectuelle. C'est quand même dans l'histoire de l'humanité, les Ptolémées, c'est la première fois, ou l'une des premières fois, où il y a une volonté encyclopédique
de
rassembler.
Oui, oui.
C'est la bibliothèque d'Alexandrie.
Et la bibliothèque d'Alexandrie,
dans l'histoire de l'humanité. C'est la volonté d'avoir
l'encyclopédie. En grec, traduit en grec,
exactement.
Etc. Pascal Ballet, sur ce point.
Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que c'est une des spécificités des Ptolémées, c'est d'avoir, alors en prolongeant Athènes, mais en allant, en récapitulant tous les éléments du savoir. C'est-à-dire constituer une sorte d'inventaire. Et ça, Athènes, qui avait donc été vraiment la tête de pont, je dirais, des recherches, et surtout était surtout dans le domaine philosophique, dans le domaine, si vous voulez, conceptuel. Ce que Alexandrie n'a pas suivi cette voie, mais plutôt, c'est effectivement la collecte de l'ensemble des éléments du savoir, donc la recherche des papyrus, constituer la bibliothèque, établir des listes, le travail considérable des bibliothécaires de la grande bibliothèque, hein, qui étaient des gens absolument éminents, qui étaient aussi des auteurs.
Avec des index très élaborés.
Des écrivains qui écrivaient des poèmes. Donc, il y avait vraiment une constitution du savoir qui était... Et alors, Cléopâtre se situe parfaitement dans cette tradition. Mm-hmm. Mais ce que relèvent les gens qui travaillent sur cette période, sur le plan scientifique, c'est qu'en fait, du temps de Cléopâtre, il semblerait qu'elle se soit orientée justement, avec la promotion de ses médecins, chirurgiens, etc., plutôt dans la recherche appliquée.
Ah oui.
Quelque chose de plus terre à terre, si vous voulez, parce que quand même, bon, je vais pas non plus minimiser, j'ai dit tout à l'heure que c'était une récapitulation du savoir, il y a quand même eu énormément de recherches sur le plan de la géographie au IIIe siècle, avant sous Ptolémée II et Ptolémée III, hein, il y a eu quand même des avancées énormes en termes de conception du monde, et c'est vrai que là, à l'époque de Cléopâtre, le seul astronome qui se distingue véritablement, mais auquel elle a sans doute elle a favorisé sa carrière, c'est Sosigène qui a tenté de réformer, enfin a fait réformer le calendrier romain. Donc on est passé du calendrier lunaire.
Oui, parce que ça n'est
pas calendrier solaire.
Ça n'est pas la moindre des choses que de dire, effectivement, peu de gens le savent, et moi je l'ai découvert en lisant Michel Chauveau, qu'effectivement notre calendrier, qui est quand même issu du calendrier julien, donc voulu par Jules César, a été fabriqué au moment du pouvoir de César à Rome, sur les conseils d'un alexandrin, et on pourrait presque dire que Cléopâtre étant dans les parages, mirage. Pourquoi Cléopâtre n'aurait-elle pas soufflé à Jules César cette possibilité de transformer le calendrier ancien des Romains, qui était un calendrier lunaire, en calendrier solaire de 365 jours plus 1, donc effectivement avec une particularité dont on serait les héritiers lointains. Merci Pascal Ballet, on se retrouve dans un instant. Dawson dans l'interprétation donc donnée par la grande écurie de la Chambre du Roi sous la direction de Jean-Claude Malgoire, du Jules César de Enlil, qui laisse une très grande place justement à cette Cléopâtre de fiction. Alors on continue donc cette émission dernière de notre semaine consacrée à Cléopâtre dans la fabrique de l'histoire. On continue cette émission sur ce personnage donc et sur la réalité, sur la capacité qu'ont les historiens aujourd'hui, les archéologues, les spécialistes du passé donc à comprendre quelle a été véritablement son action. On a parlé de son action intellectuelle. On pourrait peut-être parler avec vous, Christian-Georges Fenzel, aussi de son action économique, politique. Vous êtes spécialiste, vous avez travaillé beaucoup sur la numismatique, par exemple. L'économie de ce royaume de Cléopâtre dans les années donc entre moins 50 et moins 30 avant notre ère, c'est quoi ? Est-ce que c'est un royaume en décrépitude ? Est-ce que c'est un royaume qui a quelques difficultés financières, qui a besoin du soutien des Romains pour continuer à vivre ? Enfin, quel est l'état de cette société dans laquelle, à la tête de laquelle on trouve justement Cléopâtre, soit seul, soit avec ses frères et mari, par exemple.
Alors ce qui est certain, c'est que c'est un royaume très très riche, hein, en dépit d'une décadence politique. Et ça suscite évidemment l'intérêt, l'appétit de certains romains, de financiers romains. On se souvient que le père de Cléopâtre, par exemple, avait obtenu un prêt d'un riche financier romain qui avait ainsi facilité le retour sur le trône de Ptolémée XII. Donc c'est un royaume très riche qui suscite les convoitises, mais qui est fondamentalement pauvre si l'on se situe au niveau des individus, des paysans. Hein, de toute évidence, il y a une terrible misère paysanne.
Et il n'a pas de chance, ce royaume, puisque pendant que Cléopâtre est à sa tête, pendant l'épopée de la vie d'Antoine, de Marc-Antoine et de Cléopâtre, on le retrouve avec une famine et puis deux fois, ce qui arrive très rarement, deux crues du Lille qui n'existent pas, c'est ça, Pascal Vernus ?
Deux années de suite, c'est surtout ça. Le Nil était toujours irrégulier, mais là, la conjonction de deux années de suite, évidemment, provoque une famine et une terrible en Égypte.
Hein. Voilà, et on assiste aussi, sans doute, à une augmentation des prix, à une dévaluation de la monnaie de bronze qui circule en Égypte et qui est la monnaie, en fait, du peuple. Hein. Mais les monnaies, en fait, m'intéressent. Enfin, d'un point de vue économique, évidemment, c'est passionnant, enfin, même si ce n'est pas directement, moi, mon sujet de recherche.
Oui, mais parce que c'est aussi l'œuvre qui permet de comprendre quelle est l'idéologie
voilà,
d'un
royaume.
Voilà, c'est
ça. En fait, moi, c'est cet aspect idéologique qui m'intéresse avant tout. La numismatique nous permet de voir, de décrypter les symboles du pouvoir et de voir aussi comment la reine voulait apparaître aux yeux de ses sujets. Alors, on peut se poser, c'est une des problématiques actuelles, en vogue dans la recherche actuelle, on se demande quelle était l'identité ou quelles étaient étaient les identités assumées par, par un roi ou par une reine, par les souverains. Et la monnaie nous permet de savoir quelles étaient ces identités, parfois plurielles. Hein.
Et alors, les identités de Cléopâtre?
Alors, les identités de Cléopâtre, d'après ce média de l'Antiquité qui était la monnaie, hein, on peut distinguer, comme l'avait dit très justement lundi Bernard Legras, l'identité culturelle de Cléopâtre, qui est profondément grecque, bon, ça c'est une chose, et l'identité politico-religieuse, qui est l'identité qui apparaît justement dans la monnaie quand on décrypte la monnaie, ou encore les bas-reliefs, les statues. Cette identité politico-religieuse, elle ressort de l'étude de la propagande. Alors, elle est double, cette identité politico-religieuse, hein, contrairement à l'identité culturelle de Cléopâtre qui est grecque. L'identité politico-religieuse grecque apparaît sur les monnaies. L'iconographie monétaire est avant tout de type grec, de type hellénique. Ouais. On a de vrais portraits de la reine, presque caricaturaux parfois. Mmh. Elle se complaît presque à montrer son nez, à montrer ses traits physiques, hein, pour bien dire que c'est elle qui règne sur l'Égypte de manière personnelle. Hein. D'ailleurs, elle fait apparaître son titre de Basilissa et son nom, Cléopatra. Hein. On n'a jamais le nom du royaume. Il n'y a pas d'État véritable.